Bonjour mes chers auditeurs, nous allons parler aujourd'hui de la situation au Proche-Orient. Il s'est passé en effet beaucoup de choses ces 15 derniers jours. Le discours d'Obama au Caire, les élections libanaises, la réélection d'Ahmadinejad en Iran et le discours de Netanyahou le 14 juin. Lorsque le président Obama a affirmé à l'université du Caire le 4 juin son exigence de deux États pour deux peuples, on a considéré cela comme particulièrement novateur. C'est assez extraordinaire, car cette exigence était contenue dans une résolution de l'ONU votée en 1948, mais évidemment jamais appliquée par les Israéliens, qui ont répondu par le nettoyage ethnique de la Palestine. De toute façon, la création d'un État palestinien n'est possible que si Israël y consent. C'est pourquoi tout le monde attendait la réponse de Netanyahou. Celle-ci est venue le 14 juin dans un discours à l'université de Bar-Ilan. Admirez au passage la symétrie, Obama avait parlé à l'université du Caire, Netanyahou lui a répondu devant une autre université israélienne, bien évidemment. Qu'a-t-il dit ? Il a accepté le principe de deux États qui était déjà inscrit, je le rappelle, dans la feuille de route signée par Ariel Sharon. Mais il a assorti cela de telles conditions que l'État palestinien virtuel ne mérite même plus le nom d'État. Quelles sont ces conditions ? D'abord, la reconnaissance du caractère juif de l'État d'Israël par les Arabes. Il a précisé à ce sujet que la Shoah n'était pas à l'origine de l'État d'Israël, ce qui est exact, puisque c'est la déclaration Balfour qui a créé le foyer national juif en 1917. Mais il a ajouté que les droits historiques du peuple juif sur cette terre remontaient en réalité à Abraham, ce qui est insensé. Car si on raisonne ainsi, les droits sur l'Amérique du Nord appartiennent aux Peaux-Rouges. Tous les immigrants installés dans cette région depuis cette date, c'est-à-dire depuis l'arrivée d'Abraham, soi-disant en Israël, devraient donc être chassés et retournés chez eux. Ensuite, le nouvel État devrait être totalement démilitarisé et il lui serait interdit de passer des traités avec les puissances qui déplaisent à Israël. Évidemment, il n'est pas question de droit au retour. Les Palestiniens chassés de chez eux depuis 1947 doivent continuer à vivre dans des camps. Pour M. Netanyahou, qui défend les valeurs de la démocratie au Proche-Orient, rien de plus normal. Jérusalem doit rester capitale de l'État israélien. Pas question de partager cette ville avec les Palestiniens. Enfin, les colonies existantes en Judée-Samarie, c'est-à-dire dans l'éventuelle Palestine, doivent pouvoir s'agrandir. M. Netanyahou a donc présenté non pas une feuille de route bis, mais une feuille de déroute. Les Palestiniens la refusent, ils ont raison. Seul Obama et les Occidentaux saluent une avancée dans cette galéjade. Venons-en aux élections libanaises et iraniennes. On a dit que ces dernières étaient truquées. C'est possible. Mais rappelons que celles du Liban l'ont été tout autant. Les grands électeurs, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, la Syrie et l'Iran, avaient décidé de maintenir le statu quo au Liban. L'Arabie Saoudite a donc acheté les électeurs en répandant des millions de dollars. On a fait venir des centaines de Libanais de l'étranger pour voter, tout frais payés. Avions, séjour de 8 jours dans les meilleurs hôtels, etc. Enfin, on a déplacé en quart des milliers d'électeurs d'une ville à une autre afin d'assurer la victoire du clan Hariri. Qui dit mieux ? Ces farces démocratiques, les mensonges de Netanyahou, sont gros de désastres futurs. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, les Occidentaux sont heureux, ils ont un petit répit, alors embrassons-nous Folleville. À bientôt, mes chers auditeurs.